Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Radio Foot International. Ici, c'est Champions aujourd'hui. Oui, c'est reparti avec cette nouvelle formule. Ça ne s'arrête jamais, bien ou pas, on ne sait pas. Mais l'a priori est tout de même jusqu'ici très favorable. Une fois ceci dit, bah pas le temps de niaiser, hein, nom d'un petit bonhomme. City Real, c'est pas de l'affiche de gala, ça. Dès les 16e de finale, mesdames, messieurs, d'aucuns y voient une anomalie, nous. Une dinguerie. Guardiola, Ancelotti, Haaland, Mbappé, deux équipes loin de leur top. Surtout City, des défenses passoires ou décimées, des attaques pour rêver, un spectacle à coup sûr qui devrait nous enchanter, n'est-ce pas, Manu Terradillo, qui, bien sûr, comme son nom l'indique, ne l'indique pas, et ce soir derrière les Sky Blues.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas mon avocat ici à côté, donc je préfère n'est pas trop...
City Real, donc, bienvenue en tout cas, Manu, comme d'habitude. City Real, donc, mais on n'oublie pas Juve PSV ou Sporting Dortmund, des oppositions plus ouverte que jamais et des saisons à sauver pour certains, le BVB notamment, non David Lortolari?
Oui, avec un Nico BVB avec un Nico Kovac qui va devoir enfin faire ses preuves, mais que c'est dur à Dortmund.
Que c'est dur cette saison. Bon, bah une fois tout ceci abordé, pronostiqué, une petite musique de rien du tout et hop, on basculera sur les 4 matchs de demain, mercredi. Monaco-Benfica d'abord parce que les hommes du Rocher inquiètent si emballant pendant 4 mois, si décevant depuis 2 mois. On n'aime pas l'hiver en principauté et là, pour le coup, on prend le temps de niaiser. Dommage, non, Ludovic Duchesne, il nous a pourtant emballé ce Monaco l'automne dernier.
Ce Monaco-Benfica encore plus, parce que c'était un match formidable, à rebondissement. C'est passé beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura un petit air de revanche et je pense que les Monégasques peuvent le faire. Bonsoir à tous.
Le Bayern au Celtic ne nous échappera pas non plus, une affiche qui sent bon les 70s pour ceux qui étaient nés à cette époque. Oui, oui, il y en a. Et puis nous nous intéresserons à ces deux affiches qui sentent bon la Ligue Europa. Ouh, c'est méchant ça, un petit peu quand même. Bruges-Atalanta, Feyenoord-Milan AC, l'Italie à l'assaut des plats pays. Et ben voilà, on y est. Tout ceci cogité par David Finzel et Pierre-Olivier Guérin. Laurent Salerno dans la place, entouré de 12 stagiaires de 3e. C'est ceux qui nous piquent tous les midis à la cantine nos steaks hachés frites. Ben maintenant, on sait pourquoi et combien ils sont. Il n'y a plus qu'à. Alors, une petite précision avant d'ouvrir les débats, messieurs et chers amis auditeurs. Elle s'adresse à ceux qui nous écoutent à 21h10, temps universel, lors de la rediffusion de cette émission qui est en direct au moment où l'on se parle là, à 16h10. Oui, nous allons parler des matchs qui seront en cours ce soir. Eh bien, comme ça, je vous propose de noter toutes les erreurs que nous allons faire ou dire. Et demain, la dame se moquera et peut-être même qu'elle nous grondera. Voilà. Bon, soyons honnêtes, les gars, je l'ai dit dans les titres, s'il y a un match à regarder cette semaine, c'est City Real, non, Manu? Vous n'allez pas me dire le contraire, vous?
Je crois qu'on est tous contents, sauf l'UEFA, sur l'effet des canards pour les play-offs, un match de ces niveaux avec deux équipes. Et surtout qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je crois qu'il y a tellement des points forts qui ne sont pas exploités par les deux équipes. Il y a tellement des faiblesses des deux équipes à exploiter par les rivales et qu'on ne sait pas, peut-être c'est 3 partout. Peut-être City gagne 3-0, peut-être Real Madrid arrive à gagner 3-0. Je crois qu'il n'y a aucun résultat qui va nous étonner.
Ludo, je suis sûr que vous n'allez pas, nous dire le contraire.
Non, ça fait envie, ça fait envie. Le Real s'est bien préparé contre l'Atlético. Moi, je donne quand même un vrai avantage au Real, même sur cette confrontation, même si tout n'est pas parfait du côté du Real. Mais je crois que Manu ne dira pas le contraire. Tous les ans, c'est un peu la même chose. Mais je crois que c'est le moment d'entrer vraiment dans cette compétition pour le club espagnol. Parce que Manchester City, ça reste très compliqué, vraiment, hein, depuis des semaines.
Hein. Depuis des semaines, vous aussi, bien sûr, David. On observe City, on voit le Real. C'est une affiche. Votre soirée est bloquée?
Absolument, et il ne faut pas oublier ce qu'il y avait en amont, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle règle, il faut se qualifier, il faut être dans les 24 premiers, certains ont eu des ratés et ça se paye à l'arrivée, on retrouve deux gros en confrontation, ça faisait partie des possibilités, voilà, ça vient dès les, finalement ce sont les 16e de finale, ça vient dès les 16e, il y a ce match-là et ça permet d'être sur la continuité de ce que vous disiez Olivier, c'est-à-dire une première partie de saison où on est intéressé par la formule, il y a du suspense jusqu'au bout. Ça se prolonge dès ces 16e de finale et derrière, les semaines qui viennent, il va y avoir pareil des confrontations aussi très très sévères, très très sérieuses avec des gros. Donc c'est une réussite sur la longueur, c'est plutôt bien.
On rappelle, hein, City Real, le quadruple champion d'Angleterre en titre, face au tenant de cette C1, 15 fois remporté. Comme dirait un certain tennisman, not too bad. City à la rue cette saison, enfin surtout sa défense. Celle du Real, elle, est décimée. On va en reparler. Heureusement, c'est très fort devant, ou supposément, parce que là encore, chez les Sky Blues, ça pioche pas mal. Avant de passer aux détails et aux oppositions entre ces deux monstres européens, le face-à-face Ancelotti-Guardiola ou le duel Haaland-Mbappé, on file à Manchester, parce que là-bas nous attend Cédric De Oliveira. Salut Cédéo.
Salut Olivier, salut tout le monde.
Salut Cédric.
Depuis hier, vous vous promenez, vous arpentez les rues de cette ville du nord de l'Angleterre. Ambiance, est-ce qu'on est aussi impatient que nous, ici, dans ce studio 41?
Ah oui, on est impatient. Alors après, vous savez, hein, ici, la ville, elle est un petit peu coupée en deux. Même si, ça c'est pas moi qui l'ai dit, pardon. Mais même si on est à Manchester, et voilà, c'est bon, il y a deux clubs rivaux, United d'un côté, City de l'autre. City, c'est un peu plus le club de la ville. United a une portée un peu plus nationale, voire même internationale. En tout cas, les supporters, ils ont hâte de voir un grand club, le Real Madrid, venir chez eux, même si ils ont l'habitude ces dernières années. Voilà, c'est plutôt par rapport à cette saison qui est un peu en dents de scie là, voire même très décevante là depuis quelques semaines. Ils savent que le titre de champion sera impossible à aller chercher, le titre de champion d'Angleterre. Ils en ont gagné quand même 6 sur les 7 dernières premières ligues. Et donc pourquoi pas tenter une aventure européenne et en espérant le retour de blessés un peu plus tard dans la saison. On espère beaucoup le retour de Rodri, le ballon d'or qui n'est plus là depuis de longs mois. L'arrivée du Real, ça excite ces supporters de Manchester City. En plus, ils vont voir Kylian Mbappé, ils vont voir Rodrigo, ils vont voir Vinicius. Voilà, ils s'attendent à un gros match. Et puis surtout, ils ont quand même confiance en leur équipe qui peut aller gêner n'importe quelle équipe européenne, selon eux, même si les résultats sont pas très bons en ce moment.
Alors c'est vrai, on a entendu Ludovic Duchesne, je vous dénonce tout de suite, c'est pas forcément la ville la plus funky d'Angleterre, la plus jolie, c'est ainsi, une ville ouvrière. Est-ce que vous sentez, on vous a entendu, on a entendu votre reportage depuis ce matin, fait hier dans les rues, Cédric De Oliveira, avec ses supporters, vous les sentez quand même confiants? Est-ce qu'on peut se dire, on abordera la question tout à l'heure avec Dortmund par exemple, est-ce qu'on peut se dire, il n'y a plus que cette Ligue des Champions à aller chercher, alors tout donner là et renverser le Real?
Ouais, c'est ce que je vous disais, effectivement, il y a le titre de champion, ils ont compris, c'était plus possible. Il y a Liverpool, il y a même Arsenal, ils ont perdu 5-1 il y a quelques jours face à Arsenal. Ils se disent que voilà, c'est trop compliqué. Mais cette nouvelle Ligue des Champions, ils ont même, alors il y en a certains qui pensaient que vu la performance au Parc des Princes et ils sont pas passés loin de la catastrophe face à Bruges, ils ont même cru à un moment donné ça passerait pas. Mais ils ont dit on est là, on est toujours là finalement. Au moins on peut sur une double confrontation, pourquoi pas aller gêner n'importe qui. Alors c'est vrai, ils ont le Real Madrid, mais ils sont aussi conscients que comme est le club, hein, comme les Pep Guardiola, comme le sont les joueurs, ils sont conscients que quand vous terminez dans les dernières places de barrages, vous affrontez vous avez plus de chances d'affronter un gros, en l'occurrence le Real, c'est assez paradoxal, mais il y a quand même cette confiance parce que dans cette équipe il y a des joueurs hors normes. Et ils sont capables de briller contre n'importe quelle équipe.
Puis ce qui est sympa pour vous, c'est que quel que soit le résultat, vous trouverez des gens heureux en ville, parce qu'au pire, les supporters des Red Devils feront la fête.
Il y en a aussi, mais il y a aussi beaucoup de supporters de Madrid. Ils sont venus, il y a quelques milliers. Ils font beaucoup de bruit, les Espagnols d'ailleurs. On les a croisés en ville tout à l'heure.
Mais ça, c'est voilà. Hein. Vous avez vexé Manu Terradillo. Merci. C'est là qui va repartir.
Il faut pas de foot pour qu'il en fasse des bruits.
un dernier mot pour expliquer à nos auditeurs. Vous ne serez pas forcément au stade ce soir. Vous serez autour. Vous êtes où?
Alors là, pour l'instant, je suis pas au stade parce que je suis allé me mettre à l'abri, parce que au-delà de on va dire de l'architecture de Manchester, voilà, il y a un climat assez britannique. Ça ne vous étonnera pas, mais on va aller autour du stade pour sentir un petit peu l'ambiance justement à mesure que le match s'en rapproche, et puis profiter de cette rencontre et de cette ambiance particulière de la Ligue des Champions.
Merci Cédric, on découvre bien sûr demain matin votre reportage sur les antennes de RFI. Et bon match, hein, parce que ça va être sympa, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Bonne ambiance à vous et merci d'avoir été dans Radio Foot. Nous on sera au bistrot aussi pour voir le match, il n'y a pas de... Oui.
Oui, je crois que ça sert pas bien.
Enfin, lui, il va dans l'antre du Real à Paris. C'est pas possible qu'il aille ailleurs.
Mais Olivier, pour reformuler peut-être ce que disait Cédric, il y a une équipe peut-être qui peut battre le Real. C'est celle-là. C'est Manchester City.
Ah, j'ai cru que vous alliez dire il ne pleut que 364 jours par an.
Non, mais ici, on est bien servi aussi quand même par ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Oui, bien sûr.
C'est ça, c'est-à-dire. Je vais être honnête, oui. Cédric expliquait qu'il y a des as là dans la manche quand même de Pep Guardiola et c'est cette équipe-là peut-être plus que toute autre qui peut sortir le Real et qui peut derrière si elle devait se qualifier, ce Manchester City, finalement ne pas tellement surprendre. Le Real Madrid éliminé par un club inférieur et ils le sont tous. On serait surpris, on dirait tiens, c'est une mauvaise saison du Real, c'est un mauvais match, c'est une mauvaise double confrontation. Mais là, si Manchester City doit se qualifier, personne ne va se dire c'est une surprise. C'est ça aussi qui joue en faveur de l'équipe de Pep Guardiola. Vous avez des joueurs comme Haaland, vous avez des joueurs qui sont là, qui sont des joueurs des potentiellement des finalistes de cette compétition. S'ils devaient sortir le Real, ça n'étonnerait personne.
Bah si, ça étonnerait Manuel Terradillo.
Non, mais j'ai un peu l'impression, ça c'est vrai, on ne peut pas être étonné, mais que ça piquera un petit peu plus chez les Real Madrid de se faire éliminer maintenant que si c'est City.
C'est vrai.
Après, il y a deux équipes, ce n'est pas le meilleur état des formes maintenant, mais je trouve une différence, c'est que pour City, pour moi, c'est un peu plutôt une question d'état d'esprit, que l'équipe n'est pas bien. Et pour les Real, c'est plutôt une question aussi d'effectif, avec tous les blessés, surtout en défense.
Le
très célèbre Morabit de Pogba, peut-être.
Rudiger n'est pas là.
Il a fait ce qu'il
Militao,
a voulu. Mais
Carvajal,
Militao, Alaba, Rudiger, Vázquez. Donc même les remplaçants de titulaire s'est fait blesser. Donc la défense.
Et voilà, Tchouaméni en défense centrale.
Voilà, Asensio, c'est très bon par contre.
Donc pour moi, c'est la grosse différence. Bah, il faut que voir Manchester City au niveau d'effectif, ça n'allait pas bien. Ils ont dépensé 200 millions les derniers marchés et personne ne s'est étonné non plus. Oui. Donc pour moi, c'est un peu la différence de deux. C'est pour ça qu'on peut dire que pour moi, je vois un peu favori les Real Madrid, mais pas trop. Mais que l'effet de voir les City qui ne va pas si bien, pour moi, ce n'est pas non plus une garantie pour les Madridistas.
Et puis, il y a des duels ou des face-à-face qu'on a envie de voir ou de revoir, comme ces deux entraîneurs. On a ce soir deux des trois ou quatre meilleurs entraîneurs au monde. On est d'accord avec ça. Il y a Klopp qui pourrait être dans ce groupe-là et le quatrième m'échappe un peu.
Celui de l'Atlético de Madrid,
oui,
peut-être.
Antoine Camboire, s'il nous écoute, voilà,
Simeone,
on place tout
peut-être,
en haut. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, on a 8 Ligues des Champions remportées à eux deux, 5-3 pour Carlo. Ça ne l'empêche pas de rendre hommage à Pep Guardiola. Le respect, et ça aussi c'est bien, entre les deux est énorme. Écoutez l'hommage du mystère hier à Pep Guardiola en conférence de presse d'avant-match.
Ce que je peux dire de Guardiola, c'est qu'il me semble que c'est un entraîneur qui a toujours tenté d'apporter quelque chose de nouveau à ses équipes. Il a beaucoup apporté au football en termes de jeu offensif, de possession, de pressing, de sortie de balle et de relance par l'arrière. Il a été et il continue d'être un innovateur dans le football. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui parce que pour moi c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et à chaque fois que nous jouons l'un contre l'autre, c'est un cauchemar de préparer les matchs parce qu'il a toujours des trouvailles et qu'il faut trouver des parades.
Je ne vais pas vous le cacher, je suis un vrai, vrai fan de Carlo Ancelotti. Le joueur et l'entraîneur qu'il est devenu, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas fan de Pep Guardiola. C'est quand même extraordinaire d'avoir ces deux-là face à face et d'avoir un Ancelotti qui tient, Ludo, ce discours-là face à propos de Pep Guardiola.
Bah, Ancelotti, je trouve que... Il fait jamais d'erreur de phrasé, de conclusion, de résumé. Il est toujours juste dans tout ce qu'il dit sur les entraîneurs et sur les joueurs, et notamment sur ses joueurs. Quand il parle de Mbappé, de Tchouaméni, de Mendy, il est toujours exact. Et moi, j'avoue que j'adore le personnage et ce qu'il dit sur Guardiola, ça me semble l'évidence. Oui, malgré ce qu'il traverse, mais il faut dire que c'est un métier où... d'une année sur l'autre, l'équipe peut être plus ou moins bien classée. Et même quand vous avez les meilleurs joueurs du monde, en ce moment, c'est compliqué pour Manchester City. Mais Guardiola, de par ce qu'il a fait sur le terrain, parce que c'est un grand milieu de terrain, et de par ce qu'il est en tant qu'entraîneur depuis de nombreuses années, oui, je pense que lui, il aura apporté au foot. Donc le voir aujourd'hui en difficulté, ça veut dire que c'est un métier de fou et que Carlo Ancelotti n'est pas non plus à l'abri de ça. Il le sait, il a déjà été viré du Real Madrid. Donc voilà, c'est des grands grands. Moi, je partage ce que tu as dit, dès le départ. C'est-à-dire que ça fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. Mais c'est vrai, Guardiola, mais oui, on l'aime. Moi, je j'ai pas d'affinité particulière avec City. Mais j'aime cet entraîneur, je l'aime pas se faire du mal, parce que quand on le voit, il est tellement malheureux, non. Ça par contre, voilà, c'est un peu difficile à voir, mais sinon, non, c'est deux grands, donc ça, on a envie de voir cet affrontement.
Tellement investi dans le football, et on n'en dira pas plus, qu'il a même de gros soucis dans sa vie personnelle, avec une femme qui lui reproche justement d'être obsédé 24 heures sur 24 par le foot.
On comprend, Olivier, l'investissement total aussi, parce qu'on voit que dès que vous vous fossilisez un petit peu, que vous voulez pas vous reposer sur l'effectif que vous avez, mais Guardiola, il a peut-être aussi voulu continuer à faire confiance à des De Bruyne, à des joueurs qui peut-être déclinent. Et peut-être que
on a dû...
c'est difficile de se renouveler chaque saison, de faire entrer des jeunes, de les intégrer là-dedans avec toute l'exigence.
C'est vrai que le disait, 6 des 7 dernières premières ligues.
7 apartés, je pense que
tout là-haut.
David a peut-être mis le doigt là où ça fait mal. Oui. C'est peut-être la principale erreur de Guardiola. Voilà. Oui. Si on a fait une,
et
c'est
aussi,
de ne pas renouveler assez son groupe, oui. Même s'ils l'ont fait là pendant le mercato. Mais c'est vrai que d'avoir gardé tous ces joueurs, les Bernardo Silva,
c'est des grands joueurs.
Ben, cette année, ça marche moins. Et par exemple, Kyle Walker est parti parce qu'il était méconnaissable.
On n'oublie pas Rodri. Cédric Dioliveira le disait fort justement. Rodri, ballon d'or, blessé.
Il est hacké. Ce groupe-là n'a pas beaucoup évolué la saison dernière. Savinho est rentré, mais il a mis du temps à s'intégrer. Et donc, du coup, c'est peut-être ça son erreur, David.
Ouais, alors après, le problème, c'est qu'on peut retourner l'argumentaire en disant une équipe a besoin de 4, 5, 6 saisons pour être vraiment un noyau indestructible, etc.
Mais tu ajoutes 1, 2, 3 joueurs chaque été pour garder un peu l'ambition.
Oui, mais ils l'ont encore fait cet hiver.
Mais ils peuvent se rater et faire les mauvais choix aussi. Ça arrive aux meilleurs. Je voudrais qu'on évoque rapidement, avant de passer aux autres matchs, un autre duel. Évidemment, à Haaland Mbappé. Excusez-moi, mais c'est quand même compliqué là aussi de faire mieux dans le face-à-face entre deux des meilleurs attaquants de la planète du moment. Pardon pour ceux qu'on oublie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux hommes-là. Le cyborg donne l'impression de faire une saison moyenne. J'ai regardé les stats. 25 buts en 32 matchs, et on a l'impression qu'il fait une saison moyenne.
J'y vois une différence quand même entre les deux, et me fera peut-être mentir ce soir, mais dans les grands événements, dans les grands moments du football, il y en a un qui déjà a prouvé qu'il pouvait être au plus haut niveau, c'est Mbappé.
Je rappelle qu'il a
3 buts en finale de Coupe du Monde.
On peut faire
difficilement faire mieux,
nationale.
Mais Haaland ne le fait pas, mais même en Ligue des Champions, il est souvent très discret, trop discret. Donc peut-être qu'il va nous faire
mentir
ce soir.
Un peu comme Ibrahimovic.
Voilà, exactement, mais pour l'instant,
lors des matchs à élimination
directe, il a son plafond de verre lui aussi. C'est bien de marquer 3 buts contre Crystal Palace, mais c'est pas la même chose contre le Real ou le Paris Saint-Germain, je suis désolé.
Je vous disais, 25 buts en 32 matchs pour Haaland. Mbappé, lui, a enfin lancé sa saison ces dernières semaines. 19 buts en 29 matchs, c'est tout à fait honorable. Un duel dont Ruben Dias, le défenseur des Sky Blues, a parlé hier en conférence de veille de match. Bah oui, forcément, c'est de ça dont on parle aussi entre joueurs.
On a déjà beaucoup joué par le passé contre lui, mais il n'était pas seul. Il y avait Messi, Neymar également, et puis d'autres équipes où le danger peut venir de partout. C'est la difficulté en Ligue des Champions. Et quand tu affrontes le Real Madrid, il n'est pas étonnant de voir des attaquants de ce type. Il va falloir être très solide. C'est ce qui nous donnera confiance. En tout cas, je ne sens aucune rivalité particulière concernant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Ce sera Manchester City contre le Real Madrid. C'est sûr qu'il y a des grands nom des deux côtés, mais en ce qui concerne Erling, je suis convaincu qu'il sera assez affamé pour être là et briller sur le terrain.
Il commence avec Mbappé, il termine avec Erling Haaland. On n'a pas parlé de Vinicius, juste un mot rapide, il est un petit peu en disgrâce. Alors, du côté du Real, on rappelle, il y aura Mbappé, il y aura Rodrigo, il y a Bellingham, il faut bien se faire une place. Et Vinicius, on a l'impression qu'il a fini par agacer tout le monde aussi au sein du club.
Mais bon, c'est un peu l'image qu'on a aussi, qu'il aime bien protester tout le temps.
C'est pas une image,
si on
constate tous les
week-ends. Mais après,
il cherche quand même pas mal.
C'est un peu comme Haaland, c'est 16 buts et 10 passes décisives cette saison, 29 matchs. Dernière saison, il a marqué 25, donc il est acquis à 9 buts de sa dernière saison qui était la super saison, donc il ne va pas si mal. Après, il y a plusieurs choses. Il y a la manque d'un joueur comme Kroos qui peut lancer le jeu à droite, à gauche, peu importe où tout est placé. Les changements des systèmes, ou si Rodrigo il va bien, il y a tout qui va basculer à droite. Et il n'y a qu'un seul milieu offensif maintenant cette saison, c'est Bellingham. Il va aller à droite, Mbappé va aller à droite, donc lui il sera seul. On l'a déjà vu sur la télé en demandant à Ancelotti pourquoi ne me donne pas les ballons, parce qu'ils ont joué à droite. Donc, Je crois que c'est vrai qu'il n'est pas au même niveau que la dernière saison, mais la dernière saison, il y avait deux attaquants. Cette saison, on a quatre joueurs en attaque incroyables. Du coup, à un moment donné, il faut partager les buts. Quand tu as un joueur qui marque tout, il y a quelques semaines, c'était Mbappé. On ne voyait pas Rodrigo briller comme on les voit maintenant. C'était Mbappé, évidemment. Il y a moins de buts, entre guillemets, à partager. Mais surtout, un petit truc à ajouter, les duels qu'il n'aura pas ce soir, c'est Walker et Vinicius. Et qui va arrêter Vinicius? Parce que je crois que Mateus Nunes, c'est pas la même chose.
Hein. Akanji non plus.
Non, mais je pense que Vinicius, pour répondre à ta question, il se perd un peu de par son comportement. Je pense qu'il fatigue, et il fatigue aussi Carlo Ancelotti, qu'il a repris à plusieurs fois de voler sur le terrain. Je pense franchement, il fatigue un peu tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'il perd, et notamment après le ballon d'or qu'il n'a pas eu, qu'il aurait peut-être mérité. Mais je pense que l'attitude d'un joueur est aussi importante, et qu'à un moment donné, quand tu dois départager des joueurs qui sont au plus haut, eh ben, c'est vrai que ce genre d'attitude, il est très énervant. Alors après, il subit des actes de racisme qui sont condamnable, on le dira, on le répétera tout le temps, mais son attitude à lui sur le terrain, où il est très provocateur, où il râle tout le temps, où il est tout le temps en train d'engueuler les spectateurs quand il joue à l'extérieur, l'arbitre, c'est fatigant pour tout le monde.
Si je résume, match équilibré, a priori le Real favori, mais si une équipe doit les éliminer, maintenant c'est Manchester City.
Voilà, bonne chance.
Oui, ouais. Non, c'est ça, oui, mais comme l'a dit Manu, on peut avoir un 3-3, on adorerait tout ça, plutôt qu'un 3-0 pour l'un ou pour l'autre.
3-3 et puis 3-0, là, les retours, c'est voilà, c'est 9 matchs, on se profite bien de foot.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Manchester City-Real Madrid pour ce premier match du soir, cette affiche de la semaine, soyons honnêtes. Juve, PSV Eindhoven, ça claque un peu moins, mais c'est intéressant. Le 17 septembre, les deux équipes se sont rencontrées pour une victoire de la Juve 3-1. Bah, c'est comme ça, cette Ligue des Champions nouvelle version, on a des équipes qui peuvent se rencontrer plusieurs fois. C'est le cinquième du Calcio. La Juve, une défaite, 10 victoires, mais 13 nuls. C'est la marque Thiago Motta. Face au premier ex aequo des Redivisie, le PSV Eindhoven, juste devancé à des différences de but par l'Ajax. Ça, alors on vient de parler évidemment de Manchester City-Real, mais un petit Juve-PSV, on va forcément s'ennuyer, David Lortolari.
On peut s'ennuyer sur Manchester City-Real Madrid aussi. C'est-à-dire, si Haaland et Mbappé défendent comme des acharnés, ça peut être aussi un match très 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 fermé. Bon, pour dire que on va pas préjuger du scénario, je suis intéressé, moi, toujours de voir un club néerlandais de haut classement. Parfois c'est l'Ajax, parfois c'est PSV, ça peut être aussi le Feyenoord. Passer le cap, c'est-à-dire battre un club soi-disant plus huppé, soi-disant un peu plus fort, un peu mieux armé. Peut-être qu'à un moment ça va cliquer du bon côté et je suis intéressé de voir si Feyenoord, du coup je fais l'erreur, si le PSV peut jouer comme il sait le faire en championnat, c'est-à-dire proposer de l'offensive et quitte à prendre des risques et à encaisser des buts de la part de la Juve. Je suis intéressé sur l'attitude des Néerlandais.
Ouais, il y a danger pour la Juve.
Ouais, juste pour le PSV, on les avait vus bons au Parc des Princes.
Exactement.
Beaucoup moins bons à Brest.
Match nul hein, contre Paris.
Ouais, mais là, Brest, c'est aller-retour. Là. Donc,
Brest avait battu. Non, mais quand même, Brest avait battu le PSV Eindhoven. C'est quand même une référence.
Et le PSV Eindhoven a battu Liverpool. Mais c'était la dernière journée. C'était l'équipe D de Liverpool.
Non, mais t'as raison. C'est bien aussi la preuve qu'ils sont capables de monter d'un cran.
Première défaite de Liverpool cette saison.
La Juve, après, va mieux depuis que un certain buteur français est là. Donc,
Randal Kolo Muani est arrivé, 3 matchs, 5 buts du jamais vu en Lombardie, d'après mes informations qui doivent venir de Laurent Salerno, oui c'est ça. On écoute Thiago Motta qui nous parle justement de Randal Kolo Muani.
Il s'est très bien débrouillé, tout comme les autres joueurs qui ont créé l'environnement pour qu'il réussisse. On travaille en équipe, un joueur seul ne peut pas aller très loin. Randal et ses coéquipiers le savent très bien. Bien sûr, grâce à ses qualités et avec l'aide de ses coéquipiers, il concrétise nos occasions et il élève le niveau du groupe. Les autres joueurs, avec d'autres caractéristiques, l'ont déjà fait et peuvent le refaire. Randal se débrouille bien aussi parce que ses coéquipiers sont bons et qu'ils l'aident beaucoup sur le plan offensif et défensif.
C'est pas mal, c'est presque un document de voir Randal Kolo Muani marquer autant.
Non, mais alors je vais te dire, moi je veux absolument dire un petit mot parce qu'il faut lui rendre grâce. Parce que je trouve qu'après ce qu'il a vécu ces derniers mois au Paris Saint-Germain, il a été quand même assez humilié. Parce que quand tu mets le Coréen Lee avant-centre à sa place, et que toi tu es sur le banc et que toi tu es le buteur de l'équipe de France, ça doit te faire quand même très très mal à la tête. Et ça il l'a vu, il l'a subi pendant beaucoup de matchs. Et le gars, on le transfère à la Juventus, et qu'est-ce qu'il fait?
dès qu'il est sur le terrain, il marque.
Ah oui, dès le premier match.
Il arrive comme ça à prendre sa place, il arrive à transformer cette équipe qui a quand même été très moyenne depuis le début de saison. Donc je veux rendre grâce à ce joueur parce que je trouve que, et on le dit pas assez souvent, il a un mental exceptionnel, Kolo Muani, et il le montre à chaque fois avec l'équipe de France. Ça, il me fait penser un peu, alors dans le mental, à Olivier Giroud. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'était pas souvent titulaire, mais dès qu'il est en équipe de France, il marque. Là, Kolo Muani, il joue et il a un peu transformé la Juve, il faut le dire.
Et la Juve aura bien besoin de lui pour faire douter le PSV à Eindhoven. On rappelle, le match aller, c'est à Turin. Le match retour, ce sera donc à Eindhoven. Le dernier match du soir, Sporting Dortmund, là encore, c'est plutôt équilibré, non? Sporting Dortmund, Sporting Lisbonne, on rappelle, c'est le champion du Portugal en titre. Ils sont à nouveau leaders du championnat du Portugal devant le Benfica et Porto, avec 16 victoires, 3 nuls pour 2 défaites. Candidat, le Sporting.
Oui, c'est la catégorie en dessous des FC Barcelone, Bayern, Manchester City, Real Madrid. Donc équilibré de ce point de vue-là, effectivement, Olivier. Je pense que côté Dortmund, il y a un mal de tête pour Niko Kovac parce qu'il faut dans le championnat se redresser, revenir à proximité des places qualificatives en Ligue des Champions pour des raisons purement budgétaires aussi. C'est-à-dire qu'il y a 20, 25, 30 millions d'euros qui peuvent manquer en fin de saison par rapport à ce que les dirigeants ont prévu. Donc pour Dortmund, il y a ce stress en championnat. Et malgré tout, en Ligue des Champions, ça a été plutôt pas mal cette saison. Pas toujours parfait, mais ça a été plutôt pas mal. Et on a l'impression que cette compétition donne aux jeunes joueurs de Dortmund une espèce de... Est-ce que c'est une carotte? Est-ce que c'est une étoile qui brille pour faire mieux que leur ordinaire? Voilà, donc de ce point de vue-là, deux équipes qui peuvent, oui, qui peuvent être meilleures sur la scène européenne qu'elles ne le sont dans leur championnat.
Dortmund doit sauver sa saison, clairement. On en reparle quelques secondes. On écoute d'abord justement Niko Kovac qui est arrivé fin janvier.
Le Portugal est une nation qui aime dans l'ensemble jouer au football. C'est donc une équipe du Sporting qui, elle aussi, a beaucoup de technique. Ils aiment aller de l'avant, ils ont du ballon. Dans l'ensemble, nous savons qu'ils ont beaucoup de qualités, mais nous également. Ce sera un match difficile, c'est certain. Mais ce n'est que la première manche de ces deux rencontres. Nous voulons obtenir un bon résultat et nous donner une bonne chance de nous qualifier au match retour.
Niko Finzel-Kovac, Dortmund, on l'a dit, 11e de Bundesliga à 25 points du Bayern. Depuis le début de l'année 2025, 5 défaites, 2 victoires et 1 nul. Bon, quand on vous dit que là, ce match-là est équilibré, voilà, ils n'ont que ça pour sauver leur saison, clairement. Ah, oui.
Ouais, vous avez des joueurs quand même qui ont de la valeur. Guirassy est un attaquant.
On l'adore, c'est notre copain le Guinéen, c'est bon Guirassy.
Sabitzer, milieu de terrain, et erre comme une âme en peine sur le terrain avec Dortmund. Emre Can fait bêtise sur bêtise alors que c'est un taulier, c'est un joueur qui a joué à la Juve, au Bayer Leverkusen, etc. Kobel, le gardien suisse, finit par plus savoir comment il peut sauver son équipe. Vous avez une équipe quand même qui a des joueurs de valeur, de grande valeur européenne, continentale, et aujourd'hui, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas d'identité de jeu, et Kovac a beaucoup de travail et il ne peut pas travailler, l'entraîneur qui vient d'arriver, Olivier, parce qu'il y a un match tous les 3 jours. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement pour cimenter tout ça. Je ne vois pas Dortmund aller bien loin dans aucune des compétitions qui lui restent.
Boum, enterré. Un petit mot, Manu?
Non, mais certainement pareil. C'est-à-dire, il n'a ni le temps pour s'adapter à l'équipe, ni le temps pour adapter l'équipe à ce qu'il veut faire. Donc voilà, pour moi, c'est compliqué. Et aussi, déjà, quand on parlait d'attaquants, c'est pas la même histoire, Guirassy, qui est Gyökeres, qui normalement, il devrait jouer ce soir. Donc c'est aussi, ça fait la différence d'avoir un attaquant, quand ça ne marche pas très bien, qui est capable de marquer des buts. Donc, léger avantage pour moi aussi pour Sporting.
Pour le Sporting, qui arrive lancé. 17h39, les amis. Je suis en train de calculer 22h39, puisqu'on a dit qu'on évoquait la rediffusion de cette émission. 22h39, pour être précis. En heure de Paris, je vais y arriver. Voilà pour les matchs du jour, encore une fois. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, pour la rediffusion, vous avez le droit de nous remettre en cause, de remettre en cause nos analyses. Bon, enfin, on est resté assez ouvert, messieurs, on n'a pas pris un franc parti pris. Pour vous permettre de vous remettre de tout ça, une petite pause musicale. Ben, l'oncle Soul a choisi Laurent Salerno, ou plutôt l'inverse. Il a une maison, l'oncle Ben. I Got Home, c'est le titre de cette chanson. I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home. I got home, baby, babe, I got home. Put your hands together, please, you know I got home. Move your head and tap your feet, you know what I want. I got home.
looking up to you just for being a crowd. I can be myself again in the merry-go-round. When all you gotta do is to be in the now. You got soul, babe, real soul, babe. Gazing at your smile as you sing along and calling out the name of your favorite song. I'll keep you satisfied, but it won't be for long. I'm excited.
Pas mal ce petit choix de Laurent Salerno. C'est donc Ben, l'oncle Soul, I Got Home. Vous avez pu constater depuis 30 minutes la profondeur de toutes nos analyses hein, sur les matchs du soir ou en cours encore une fois. Et si on parlait des matchs de demain, là au moins on prend moins de risques, c'est clair. Monaco, Benfica, Lisbonne. Bien sûr, on va commencer par le club français. C'est encore la deuxième fois cette saison que les deux équipes vont s'affronter. La dernière fois, c'était le 27 novembre. Victoire du Benfica à Monaco, 3-2. Festival d'Angel Di Maria. Et depuis, tout va mal pour les Monégasques. Ils ont disputé 16 matchs, ce soir l'a compris. 9 défaites, ils sont tombés du podium de Ligue 1 et ils semblent avoir perdu le fil, Ludovic Duchesne.
Un peu, et le déroulement de ce match, alors qu'ils menaient 2-1 et qu'ils faisaient un très très grand match.
Expulsion de Singo l'Ivoirien, très surprenante.
Alors que Cabreras, de son côté, aurait dû être exclu 20 ou 30 minutes plus tôt, ce qui aurait changé d'ailleurs toute la donne. Et le fameux Radé Obrenović, qui est rentré dans nos cœurs, l'arbitre de cette partie, s'est d'ailleurs fait sanctionner après ce match parce qu'il a eu tout faux de A à Z. Et tout le monde l'a reconnu, donc on peut évidemment en parler. Et ça a tout changé pour Monaco, pas la qualification heureusement. Mais du coup, il y a un vrai état d'esprit de revanche pour ces Monégasques. Il y avait la conférence de presse cet après-midi de Eddie Hutter, un entraîneur que j'apprécie particulièrement pour le jeu qu'il nous propose en Ligue 1 et en Europe, qui disait que Benfica était favori. Je suis assez d'accord avec lui. Je pense, même si je pense que Monaco a vraiment la possibilité d'aller plus loin. Alors, on parlait du Real Madrid avec sa défense décimée. C'est le cas aussi à Monaco. Quand Singo n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. À gauche aussi, il y a un vrai problème puisque Caio Henrique ne revient pas à son meilleur niveau. Il y a des joueurs qui sont un peu dans le creux, comme Ben Seguir.
On entendra demain.
Golovin a du mal, blessé ou pas, on a du mal à comprendre le message.
Sport Afrique.
Ouais, le message des dirigeants monégasques. Mais enfin, il y a du talent dans cette équipe de Monaco. Il y a surtout un état d'esprit qui est insufflé par ce coach qui je trouve apporte énormément. D'ailleurs, ces dernières semaines, il met carrément Mbolo et Biret, je sais pas si on prononce comme ça, devant. Et je trouve que voilà, il change ses compositions. Il maintenant il met deux attaquants et Monaco est capable de renverser Benfica.
Puisque vous l'avez cité deux fois, on va l'entendre, hein, parce que ça va bien. Voilà. Ça va bien, les appels du pied, là. Voilà, okay. Alors, écoutons qui ? Écoutons Adi Hutter, qui va nous parler du Benfica Lisbonne et de l'expérience, forcément, qu'ont les Portugais dans cette confrontation.
Ils ont plus d'expérience. Nous sommes une équipe plus jeune et peu de nos joueurs ont disputé ce type de match à élimination directe en Ligue des Champions. Mais nous avons hâte de les affronter. Depuis notre dernière confrontation, nous avons connu quelques difficultés. Nous avons parfois souffert dans les grands matchs, encaissé trop de buts, subi des expulsions. Mais cela fait partie de l'apprentissage pour nos jeunes joueurs. Ils n'ont pas l'expérience de ceux de Benfica, mais nous restons fidèles à notre identité. Et nous sommes impatients de les retrouver ici, à Monaco.
Oui, parce que Benfica, alors on le rappelle, c'était il y a fort fort longtemps, hein, mais... Grande Europe quand même, il est resté, il a remporté deux fois ce club portugais, la Ligue des Champions, ça s'appelait la Coupe des Clubs Champions à l'époque en 61-62, deuxième du championnat portugais derrière l'équipe dont on vient de parler, c'est-à-dire le Sporting, c'est solide et c'est une... Ouais, c'est une vraie double confrontation compliquée pour Monaco.
Oui, parce que ça va nécessiter trois ingrédients. Alors, je suis assez convaincu par le discours de Ludovic qui nous explique qu'il y a un esprit qu'on peut entretenir par rapport à ce qui s'est passé plus tôt dans la saison contre cette équipe. Donc, un esprit revanchard, ça c'est OK. Mais derrière, il faut quand même deux conditions qui sont compliquées en ce moment pour Monaco. La première, cimenter un peu cette défense, parce que les chiffres, là, les buts encaissés, ça a quand même été un peu la grappe ces dernières semaines. Et puis du réalisme devant. Alors le talent, il va falloir que ça se transforme en réalisme. Ça fait quand même trois conditions. C'est beaucoup pour Monaco, un vrai gros défi. On peut y croire, évidemment, mais
ils
ça
nécessite...
Ils ont
battu Barcelone, ils ont battu l'Aston Villa.
Voilà, voilà. Non, mais tout à fait. C'est la capacité,
il y a longtemps. Aston Villa. Villa, non. C'était le match qu'il fallait gagner pour rester vraiment...
Ils sont capables, voilà, ce que je veux dire.
J'ai peur, moi, un petit peu de leur capacité à bien défendre, parce que là, c'est pas un match comme ça où on peut faire on fait un très bon match et c'est plié, il y a l'aller, il y a le retour. Dans le contexte actuel de Monaco, c'est compliqué. Hein.
On a peur, Manu, pour leur manque de constance. On se dit que cette équipe, elle peut jouer de façon extraordinaire pendant 20, 30, 40 minutes et hop, avoir des trous d'air qui coûteront très cher face à un Benfica aussi expérimenté.
Oui, bon, déjà pour parler des mauvais résultats les toutes dernières, je crois qu'ils sont dû aussi faire face à un calendrier compliqué. Ils sont dû jouer face à PSG à plusieurs reprises, Inter aussi, donc déjà de ses côtés, ça pèse, même sur les chiffres, l'effet de voir que tu perds un autre match, même si tu sais que c'est contre une équipe compliquée. Oui, avec Ali Khoute.
Défaite 4-1 face à Paris, défaite 3-0 contre l'Inter, il n'y a pas match.
C'est surtout qu'après 30 ans, Ali Khoute, après les matchs, et il dit, bon, c'est normal, ça va, c'était une équipe magnifique. Je crois que là, de ses côtés, il faut un peu plus de je sais pas comment dire, non, self-love, de dire, bah, on est mieux que ça.
D'amour propre.
Ouais, bah, c'est pas compliqué la traduction.
C'est pour ça, je me suis permis.
Et puis aussi, je crois qu'ils sont beaucoup galéré pour trouver un buteur. Sans Balogun, ça allait pas trop bien. Minamino, franchement, j'ai des soucis à voir. Il a joué derrière l'attaquant, il a joué en côté, il a raté plein d'occasions. Donc, je crois qu'il y a plein de petites erreurs aussi qui pèsent sur l'équipe, qui fait que quand ça marche, comme tu disais, ça marche bien. Ils sont capables de faire des trucs magnifiques, comme les matchs contre Barcelone. Mais puis, les calendriers, ils étaient compliqués les dernières semaines et ça a pèsé aussi beaucoup sur l'équipe, et qui n'arrive pas à décoller, ou redécoller, on va dire.
Avantage Benfica, on est tous d'accord, a priori, sur le papier.
Non, 50-50 pour moi.
Stop, non.
C'est radical.
J'y crois encore une fois. Je trouve qu'ils ont ils ont tout ce qu'il faut pour. Je partage évidemment ce qui vient d'être dit, mais je trouve que voilà sur certains matchs, ils ont montré qu'ils pouvaient être largement au niveau. Benfica a eu aussi des gros trous d'air dans ses qualifications, donc c'est jouable. Et évidemment, si Angel
Di Maria, la question, si tu dis la même chose, si Di Maria,
c'est brillant, c'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais Singo sera là a priori au match retour pour Monaco. Ça, c'est très important. S'il n'y a pas Di Maria, on lui souhaite pas de mal, on l'adore d'ailleurs parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est quand même mieux pour Monaco.
Voilà pour ce match de demain, le premier que nous évoquons, Monaco-Benfica. Ensuite, Celtic-Bayern, c'est presque un voyage dans le temps, dans les années 70, et pourtant on a cherché. Messieurs, on n'a pas trouvé d'archives. C'est le Glasgow, souvent, qui est dans ces années-là. Je regarde Laurent Salerno, parce qu'il a cherché vraiment, mais c'est pas grave. Celtic-Bayern, ça nous rappelle quand même ces années-là, ces clubs qui ont toujours fait partie de cette Coupe des clubs champions, on l'évoquait tout à l'heure. Bon, on est inquiet pour le Bayern ?
Oh, on n'est pas très inquiet pour le Bayern, non, certainement. Surtout qu'il y a eu quelques scores fleuves les derniers temps entre les deux équipes en faveur des Bavarois, qui néanmoins ont montré cette saison contre des gros adversaires. Francfort, 3 buts encaissés. FC Barcelone, 3 buts encaissés. 4, pardon. Ils avaient perdu, oui, c'est ça. Défaite aussi contre Aston Villa, que paradoxalement, malgré les qualités offensives, quand ça veut pas, derrière, 2-3 occasions suffisent à l'adversaire pour enterrer le Bayern. Ça voudrait dire quand même que le Celtic est très en réussite. Il y a un joueur allemand, si ma mémoire est bonne, à Glasgow, Olivier, qui est très 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 en appétit, évidemment, dans un match comme ça, parce qu'il est totalement sous les radars en Allemagne. Voilà, pour dire que le pourcentage de chance, il est plus fort pour le Bayern, mais moi j'ai appris à me méfier cette saison, il y a eu 2-3 accidents, et donc le Bayern sera méfiant lui aussi.
Le Bayern est en tête de la Bundesliga.
Oui, ouais, c'est pour ça qu'il y en a aller-retour pour éviter les accidents.
Là, David, oui, c'est vrai bien, mais j'ai du mal, David, j'ai du mal à suivre. J'ai vraiment du mal à suivre, je pense qu'il n'y aura pas
de problème. Il vient d'avouer qu'il a menti depuis 2 minutes, David.
David est né à Glasgow. J'ai donné quelques arguments.
C'était pour les parieurs, il voulait le suspense dur.
C'est pas David, c'est David. Il est né à Glasgow.
Mais je pense que malheureusement, il n'y aura pas photo entre les deux. Le Bayern se trompe rarement, se rate rarement contre des équipes, faut le dire, inférieures. Je pense que Bayern ne va faire qu'une bouchée de cette équipe. Je vois même peut-être limite un score fleuve.
limite un score fleuve. Continuons à parler de ce Bayern quand même, parce que, oui, on essaye de faire un peu la mijaurée, là, de oui. se dire, bon, Vincent Kompany fait plutôt du bon boulot, on avait l'impression qu'il s'est un peu rodé la saison dernière, et que là, maintenant, il est un peu plus patron. Je demande son avis à Manu rapidement, et puis on vient vers vous.
Et en plus, un petit détail, j'ai lu ce matin, c'est qu'il a joué quand il avait 17 ans avec Anderlecht à Celtic Park. Ah, du coup, oui. il a pu...
Vincent Kompany.
Il a dit c'est trop fort les bruits là-bas. Ah. C'est ça qu'il a dit.
Évidemment.
Oui, il a eu, au contraire de Niko Kovac, il a eu le temps un peu de prendre ses marques avec cette équipe. Il a pu voir aussi comme des joueurs ont pris un peu de l'épaisseur, comme Moussiala, surtout en attaque, parce que les Gnabry,
Sané,
etc., n'arrivent pas à marquer aussi comment non plus. Ouais. Ça a aidé un peu. Hein. Harry Kane n'est plus seul, on va dire, en attaque cette saison. Donc, il est en train de profiter de tout ça, et surtout quand il a eu le temps de créer une équipe. Aussi, la Bundesliga, désolé, sauf Leverkusen, c'est un bon championnat pour avoir le temps pour préparer ton équipe, parce qu'il est supérieur à la plupart des rivaux.
Oui. Oui, c'est clair, soyons honnêtes. Oui, c'est cette saison.
Oui, puis ce qui est quand même...
Il n'y a plus Dortmund, Leverkusen, Francfort, c'est gentil, mais...
Oui,
non,
alors ce qui...
Leverkusen,
c'est fort. D'ailleurs, il y a le match de championnat qui arrive très vite, là, entre les deux, par parenthèse. L'aisance et le confort que Vincent Kompany a, Olivier, c'est que... Il y a une unanimité des dirigeants derrière lui, et ça a été rare. Ouais. Quand c'était Kovac, il y avait des dirigeants qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Quand c'était Ancelotti, il y avait des dirigeants qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Tuchel, pareil, là c'est l'unanimité. C'est-à-dire Vincent Kompany, les dirigeants du Bayern sont ravis qu'il ait un jeu hyper offensif. Allez, on va simplifier en disant à la Guardiola, mais ça donnera une bonne idée aussi à nos auditeurs. Et donc, on pardonne à cet entraîneur quelques accidents, quelques échecs, quelques défaites. Et ça lui donne quand même une aisance et une certitude de pouvoir travailler sur du moyen terme. Il a réussi à remettre d'aplomb quelques joueurs. Le Roi Sané a marqué un joli but le week-end dernier. Donc oui, ça va dans le sens de ce que Ludo dit. Normalement...
Oui, 4-0, allez.
Non, mais un petit mot du Celtic ou pas. Le Celtic, ils ont quoi? Du courage?
Oh, ils ne sont pas perdus à la maison depuis décembre.
Ouais, mais ils jouent contre qui? À part les Rangers,
depuis décembre, ça fait pas beaucoup quand même.
Et aussi, non, attendez, j'avais noté aussi
le fighting spirit.
Bayern n'a pas gagné à l'extérieur qu'un seul match, et c'était même en Allemagne parce que c'était contre Shakhtar.
Quand Shakhtar
Donetsk jouait à Kelsenkirchen.
C'est pour ce soir alors, ou pour demain.
Ça sera plutôt pour demain.
Non, mais effectivement, le format double confrontation va aussi à l'avantage du Bayern, bien sûr, avec le match retour à Munich.
Mais on aime l'ambiance, évidemment, du côté du Celtic. Ça va chanter demain. Et puis, le courage. Sait-on jamais? Allez, sur un malentendu. En tout cas, pour la manche aller. Deux autres matchs au programme ce mercredi soir. Bruges-Atalanta, Feyenoord-Milan AC, l'Italie en force. Et a priori, avantage Calcio, on rappelle. L'Atalanta est troisième de ce championnat italien. Milan, c'est pas une saison top, seulement septième. Mais en face... Bon, voilà, Bruges, Feyenoord, ça peut quand même rivaliser avec ces équipes-là.
Alors, du côté de Bruges, ça sera un peu plus compliqué.
On peut dissocier les deux matchs. Hein.
L'Atalanta qui a gagné quand même la Ligue Europa, puis qui est toujours bien en Serie A. Pour le titre, ça sera compliqué, mais voilà, Gasperini et son football, il sait faire. Pour Feyenoord, Milan AC, moi, je serais plus partagé. Je pense qu'il y a une vraie bonne confrontation.
Feyenoord est pas top. Hein. Cinquième des rédivisés, ils viennent de virer leur entraîneur.
Oui, mais
c'est pas la bonne période.
Ils ont montré sur certains matchs de Ligue des Champions, ils étaient au niveau. Ils sont capables, je pense, d'aller embêter les Milanais. Je pense qu'il y a plus de confrontations entre ces deux-là. Ça sera plus disputé que l'Atalanta. Ce n'est juste mon avis, mais je pense que l'Atalanta a quand même de la marge, avec notamment Retegui qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. Du côté du Milan, c'est pareil, quand c'est ça, on essaye de trouver la bonne formule, c'est un match sur deux, ça marche, mais je pense que Feyenoord a du répondant, c'est les équipes néerlandaises, je pense que ça sera accroché, mon avis. Je sais pas si David partage.
Retegui, vous en parliez, on n'oublie pas, nous on est sur RFI, Ademola Lookman, qu'on adore bien sûr, le Nigérian, mais c'est vrai que Retegui est en feu, 4 buts samedi dernier pour l'Atalanta, 16 buts cette saison. Votre avis, mon cher David, l'Ortolari, Bruges, Feyenoord, c'est un peu votre secteur, ça aussi.
Ça correspond en tout point à ce que dit Ludovic, avec peut-être une petite nuance concernant le club Bruges, c'est que j'ai vu 2-3 fois cette saison, ça m'a surpris, ça a dû surprendre aussi les téléspectateurs ou les personnes qui étaient parfois au stade, c'est-à-dire, on a la sensation que c'est une équipe qui va être une victime, Certains matchs, il y a eu quelques coups. Ils sont là, ils sont qualifiés, ils sont dans le peloton. Mais d'accord sur le fond avec Ludo, c'est-à-dire cette constance de l'Atalanta, cette culture désormais d'accéder à des finales et à les gagner. On se souvient du match parfaitement abouti contre le Bayer Leverkusen il y a pas si longtemps que ça.
En finale avec le Schalke.
3-0, voilà, exactement. Alors oui,
finale
effectivement.
De la Ligue Europa, hein, on le rappelle.
Voilà.
Seule défaite de Leverkusen l'an passé.
Ouais.
Exact. La seule compétition
s'est installée depuis quelques saisons parmi les 3-4 meilleures équipes d'Italie.
Voilà, alors après ils sont prévenus, ils ont regardé ce qu'a fait Club Brugge et quelques matchs un peu réussis, un peu peut-être au-delà de la performance moyenne, et d'accord aussi sur la prudence vis-à-vis de l'AC Milan.
D'accord dans cette émission, je vois pas l'intérêt de continuer.
Non, mais on va pas inventer. L'AC Milan, c'est pas l'Inter cette saison. Hein.
Non. Ah non, c'est clair.
Sans loin.
Simplement, là, pour ces matchs, en fait, pour moi, Feyenoord, c'est mieux de jouer d'abord à la maison. Quand tu joues face à un grand qui n'est pas un très bon niveau, je crois que c'est beaucoup mieux de jouer à la maison, comme ça tu peux peut-être réussir un coup. Et puis pour les matchs retour, aller avec 1-0 pour toi ou 2-1 pour toi. Et
3-0 contre le Bayern, mais
3-0 contre le Bayern, Niv. C'est quand même, je veux dire, le Feyenoord, ils ont quand même éparpillé le Bayern. Ça, c'est.
Oui, mais je vous disais, c'est moins bien depuis. Les résultats sont pas terribles. Ils viennent de limoger leur entraîneur. Ouais. Bon, voilà. Mais effectivement, le Milan AC, pour revenir et repartir sur Manu, fait de loin une saison très moyenne.
Ils sont en train encore, comme tu disais, de chercher la façon de jouer. Et je reviens sur la même chose. Je crois que c'est la 35e fois que je l'ai dit. Quand tu regardes les meilleurs buteurs de l'équipe, il n'y a aucune qui est arrivée à 10 buts encore cette saison. Toutes les compétitions confondues. Donc je crois que s'ils jouent contre eux, je crois que ça va être compliqué, surtout ces premiers matchs pour eux.
Ludo,
pour
c'est les deux clubs italiens, comme je le disais, sont favoris.
Oui, l'Atalanta, aucun doute. Je pense qu'ils passeront. Ils ont vraiment, puis ils ont des ambitions en plus dans cette compétition. Donc ça ira plus loin. Pour les deux autres, c'est plus compliqué. Pour l'indice UEFA, on préférait que ce soit le Milan AC, hein, faut pas se cacher. Mais moi, je redis que c'est, je pense, très équilibré. Le petit avantage, quand même, si je dois donner un avantage, je le donnerai au Milan. Pourquoi ? Parce que Conte Sao vient de jouer plusieurs saisons de Ligue des Champions avec Porto, et je pense qu'il sait faire. Il a cet état d'esprit. Il l'insuffle déjà depuis quelques semaines, depuis qu'il est arrivé à la tête du Milan AC, et je pense que ça peut faire la différence. Comme tu l'as dit, Feyenoord vient de changer de coach. Voilà, ça peut être une petite différence qui fera que Milan se qualifiera.
D'accord avec tout ça, le mot de la fin pour vous, David Lortolari?
Oui, moi, le mot de la fin, Olivier, c'est il y a beaucoup de surprises, des scores larges dans cette compétition depuis le début, et on va en avoir aussi cette fois. Il y aura forcément une surprise quelque part, je la vois bien, moi, sur ce AC Milan-Feyenoord.
Feyenoord AC Milan pour
oui,
être
parce que c'est dans ce
exact
pour le premier match
pour ce match. Allez, bah, voilà, on a présenté l'essentiel de ces matchs de la semaine. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Ne misez pas tout votre argent, parce que j'en vois là derrière la vitre qui
sur
sont
le
déjà
Celtic,
en train
attention,
voilà, ne l'y croyez pas forcément. Vous verrez que demain il faudra se justifier. Demain, ça tombe bien, c'est le retour de la dame. Nous on sera pas là, mais c'est promis. Vous avez le droit d'ailleurs d'aller commenter sur la page Facebook et de ne pas être d'accord, c'est le principe, c'est du foot. Ce qui compte, c'est qu'on se régale à voir tous ces matchs Ligue des Champions. On arrive dans le dur, dans cette partie à élimination directe qui nous plaît tant. Et comme la phase de poule nous a emballés, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à se régaler. Allez, rendez-vous demain, même heure, avec la dame.